Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Fin du Game, l'émission qui va au bout des jeux et qui ne perd jamais son stylet. Moi, c'est Hugo, je suis avec Maxime.
Bonjour.
Et je suis aussi avec Exer.
Salut, mais je pense que tu mens, c'est pas possible de ne pas perdre son stylet.
Mais alors... seul Fin du Game peut le faire.
Et oui.
Il y en a un qui ment. Un qui dit la vérité.
Ah là là, ça commence déjà. Bon, on est très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Je rappelle que ça y est, on reprend le rythme de 2 épisodes par mois. On avait fait un petit break en mars, mais là, c'est reparti. 2 épisodes dans vos oreilles, 1 vendredi sur 2. C'est le programme. Aujourd'hui, on va parler du professeur Layton et de l'étrange village. On va revenir un petit peu sur l'histoire du studio Level 5, le studio qui est derrière professeur Layton. On va aussi parler un petit peu de Nintendo. DS, parce que c'est la première fois qu'on consacre un épisode à une console qui a incarné plein de choses, et justement son positionnement a fait naître le professeur Layton, donc on parlera de tout ça, et puis on reviendra évidemment sur sa formule, pourquoi ça fonctionne, cette histoire d'énigmes et de mecs avec un chapeau haut de forme. Voilà, on va voir tout ça dans cet épisode, mais avant, on va remercier notre nouveau sponsor.
Allez,
et oui, nous avons un nouveau sponsor aujourd'hui, c'est Top Achat qui sponsorise Fin du Game. Alors, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, Top Achat, c'est un site de vente de matériel et de composants informatiques. Donc des ordinateurs fixes, portables, mais aussi des périphériques, donc des écrans, des claviers, des souris.
Mais pas que. Incroyable, c'est bien. Vous auriez vu le regard qui m'a lancé, c'est incroyable, est-ce qu'il va y arriver?
Mais voilà, tout ce qui pourrait vous permettre de faire, du traitement de texte, envoyer des mails, mais aussi peut-être, si vous faites partie de ces petits filous-là, de jouer à des jeux vidéo, parce que c'est quand même ça.
Oui, le gaming, plutôt orienté gaming, ouais, clairement.
Exactement. Ce qu'on peut noter de cool sur Top Achat, c'est notamment la présence du Configomatic, qui permet de configurer son PC avec tous les composants, parce que c'est vrai que c'est quand même un peu une aventure, et justement, ce Configomatic permet de nous rassurer un peu là-dedans.
C'est ça, il gère en fait la compatibilité entre différents composants, que ce soit au niveau du voltage, de l'espace entre les bonnes barrettes de RAM ou le ventilo. Voilà, je parle comme un mécanicien dans une publicité.
Dès que ça devient technique, c'est on est obligé de prendre cet accent pour parler de ça.
Blague à part, moi j'y suis absolument pas intéressé au hardware, donc j'ai joué un petit peu avec leur outil et effectivement c'est cool, mais dès que t'as des questions quand même beaucoup plus précises, du coup faut leur demander à eux directement. Et ça, je peux le raconter puisque j'en ai profité de les rencontrer, les gens de Tempacha, pour leur dire j'ai besoin d'un nouveau PC, est-ce que vous pourriez m'aider à faire ma configuration, parce que je savais pas comment choisir entre... Alors, les processeurs AMD, ils étaient bien il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est plutôt Intel qui est de retour. Quelle carte graphique, je sais pas quoi. Ça m'intéresse pas trop. Et donc, ils m'ont énormément aidé. Donc voilà, j'en profite pour les saluer, l'équipe de Top Achat qui m'a remercié. Je vais recevoir mon nouveau PC très bientôt.
Et puis surtout, c'est qu'ils vont vous accompagner pour faire un PC selon vos besoins. Parce que toi, t'avais besoin de streamer, etc. Donc, c'est pas tout à fait la même machine. Mais tout dépend de votre utilisation. Et donc, le Configomatic et Top Achat, ils sont là pour vous accompagner. Vous pouvez les pinguer, notamment sur les réseaux sociaux. Ils sont assez présents. Donc voilà, à la moindre question, vous pouvez dire fin du game, ils ont dit qu'on pouvait nous aider. Donc,
et là, les gens, ils vont se couper en 4. C'est juste pour dire c'est fin du game, alors c'est bon.
Donc voilà, on les remercie de sponsoriser Fin du Game. Voilà, Top Achat qui rejoint la FDG Family. On est très content de ce nouveau partenariat. Ça nous permet de continuer cette aventure sereinement. Merci à eux. Et en plus, ils sont très sympas. Voilà, on va pouvoir passer à notre jeu du jour, Professeur Layton. On a choisi les petites musiques. Sortez les accordéons, les violons.
Alors, je cite, d'après DJ Max, c'est un banger, ce qui vous attend là pour vos oreilles. Donc
c'est le banger tout de suite maintenant, ou tu mettras le banger à la fin?
Ouais, tout de suite maintenant.
Tout de suite, bien sûr. Attends, mais il faut y aller direct.
Le banger. Et on se retrouve juste après ça. We'll be right back. Alors, le professeur Layton et l'étrange village, ça sort le 7 novembre 2008 chez nous sur Nintendo DS, soit plus d'un an et demi après la sortie japonaise, puisque là c'était en février 2007. C'est depuis ressorti sur mobile. D'ailleurs, toi Benoît, tu y as joué sur cette version.
Oui, bah du coup, en fait, j'avais pris le Play Pass là sur Google il y a quelques temps en me disant tiens, je vais essayer des jeux mobiles parce que c'était un peu ma phase, on va dire ma marotte du moment. Et j'ai vu que tous les professeurs Layton étaient dedans et donc j'ai refait l'étrange village sur téléphone. Ça se fait très bien. Voilà.
Donc sans le stylet, tu n'avais pas le stylet.
J'avais un doigt.
Tu avais un doigt. Et
oui.
Et ça, c'est complètement
ouais,
fou.
Ouais, mais c'est pas. Ouais, mais je suis désolé, c'est pas l'expérience.
C'est pas la vraie. Ah, bah, c'est pas la vraie expérience. Ouais, c'est vrai. J'ai pas rayé mon écran avec un stylet en plastique, tu sais, dont il y a le petit bout là qui a été mal usiné et qui du coup s'écrase.
Exactement.
Truc, ouais, ok.
On va parler de tout ça un peu après. Mais avant, on va revenir donc sur l'histoire du studio Level 5. Donc, c'est un studio qui est fondé en 1998 par un japonais qui s'appelle Akihiro Ino, qui avait déjà une petite carrière derrière lui. Il avait bossé notamment dans un studio qui s'appelle River Hill Soft et sur la série Overblood que bah, tout le monde connaît évidemment ici.
Ça non, mais même ça, je sais pas. Tu vois.
Donc, ouais. Si Exerve n'a pas. Oui, ça me dit quelque chose, vraiment.
Non,
voilà.
Vraiment, ça me dit rien du tout.
En tout cas, il était programmeur sur le premier, il était director sur le second. C'était des jeux d'aventure SF. Et puis, c'était sur PlayStation. Et ensuite, il va quitter ce studio pour fonder son studio qui deviendra Level 5. Et il avait notamment l'appui de Sony et PlayStation parce que Sony avait besoin de studios pour fournir des cartouches à sa nouvelle console. Pour ça,
des cartouches. Des disques.
Non, justement, technique, attention, geste technique 3 sur 5. Et ils ont fourni des action RPG. C'était la série Dark Cloud. Le premier s'appelait Dark Cloud, le deuxième Dark Chronicle. Et là, cette fois.
Oui, ça, j'ai fait. Effectivement, c'est des jeux que je vous recommande. Je pense encore aujourd'hui, c'est sûr que ça va forcément avoir énormément vieilli. Plus récent, après, sur Play 2, ils ont sorti notamment Rogue Galaxy. Celui-là, pour le coup, je vous le conseille bien. C'est une espèce de petite action RPG dans un univers très Star Wars, tu sais, le côté un peu cowboy de l'espace. Ça passe très bien, l'univers il est sympa, c'est un peu trop longué comme tous les jeux Level 5, mais ça passe quand même malgré tout.
Et donc ils vont commencer à faire du JRPG, de l'action RPG pour la PlayStation, et c'est ce qui va les emmener à travailler notamment sur Dragon Quest 8. Alors à l'époque, à ce moment-là de
t'imagines l'ascension incroyable, parce que Dragon Quest c'était quand même la grosse série de JRPG avec Final Fantasy, c'était les deux.
Pas chez nous, pas chez nous
puisque du coup c'était jamais sorti, ouais. Et justement en fait ils ont demandé est-ce que Square et Enix étaient déjà mélangés? Je ne sais plus, désolé, j'ai pas vérifié ma fifiche. Mais bref, ils vont s'occuper de développer Dragon Quest 8, qui chez nous s'appelle juste Dragon Quest, l'Odyssée du Roi Maudit.
A priori,
c'est le seul qui était sorti, hein, donc voilà. Si, gros carton, enfin de toute façon, je pense que si vous, dans les tops des jeux Play 2, en général, Dragon Quest 8, il va ressortir à un moment donné. C'est vrai que c'est un jeu qui
avait
marqué
son époque.
On avait
pas checké, c'était genre des millions de ventes la première semaine, un truc comme ça, c'était pas 3 millions, un truc comme ça, c'était complètement fou.
La première semaine au Japon, c'était déjà 3 millions.
Au Japon, Dragon Quest est quand même...
C'est vraiment un événement, donc un step-up assez incroyable pour ce studio qui, pas longtemps après, va bosser sur une des licences les plus iconiques du Japon, et forcément, là, ça va les mettre un peu plus sur la
map. Une fois qu'ils ont travaillé sur Dragon Quest, tu dis, c'est quoi l'étape suivante, ils se sont dit on va faire Jeanne d'Arc sur PSP.
C'est vrai, donc il y a un jeu Jeanne d'Arc, hein, littéralement, ça s'appelle comme ça, qui est
pas
tactical,
sorti chez nous, hein,
sur PSP, donc voilà, c'est un truc là, ils ont bossé là-dessus, et c'est ensuite, en fait, vers 2005 et qu'ils vont se mettre à réfléchir à ce qui deviendra le professeur Layton, parce qu'en 2005, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, il y a la Nintendo DS qui débarque, donc jusqu'ici, j'étais chez Sony, pardon, mais là... ils se disent tiens, il y a un truc qui est en train de se passer. Alors justement, on va revenir un petit peu sur la Nintendo DS parce que c'est une console qui est assez particulière en fait, qui cristallise plein de choses au niveau de l'histoire de Nintendo. Avant, on était sur... Il y a eu Game Boy Color, Game Boy Color, la Game Boy Advance, et puis là, après, on va passer sur la Nintendo DS.
En fait, ce qui s'est passé, c'est que de toute façon, de tout temps, Nintendo, il dominait le marché du jeu...
De tout temps, Nintendo dominait
le marché du jeu portable. C'est du jour où il y a eu la Game Boy, c'était fini. Et à partir de ces années-là, en fait, avec la DS, ils amènent un nouveau truc qu'on n'avait pas encore eu, parce que c'était quoi un peu l'évolution après la GBA, tu vois, c'était déjà très très bien. Elle se dépliait, souvenez-vous, hein, la GBA SP avait déjà cette forme qui permettait de cacher l'écran et de le protéger. Et ils ont rajouté un écran tactile
sur le bas
incroyable.
Voilà. Cerveau qui explose, etc. Puisque, bah, en fait, c'est assez drôle de se dire que c'était que en... c'était il y a moins de 20 ans. Et cette techno-là, à l'époque, on n'avait pas du tout ça dans notre quotidien.
Pas du tout
on n'avait pas cette habitude d'appuyer sur des trucs. C'est ce que tu voyais dans les films de SF. Tu sais, tu voyais Tom Cruise là faire des trucs comme ça.
Et encore, là, du coup, c'était même pas avec le doigt. Parce que le doigt, c'était complètement fou.
Ça ne marchait pas encore.
Voilà. Quand même pas.
Calmos.
Ça marche avec l'ongle.
C'est vrai que
ça marchait avec l'ongle.
Si tu rayais l'écran. Tu abîmais bien l'écran. Mais voilà, donc cette console qui va arriver, ce qui est amusant, c'est qu'on a noté qu'au début, elle se positionne pas toujours, tout de suite sur le truc famille, parce qu'on a retrouvé des pubs de l'époque pour vendre la DS, et la première, c'est plutôt
C'est le
délire PS2
ouais,
ado,
complètement,
avec un mec qui fait donc réduire la taille des zizi de ses camarades.
Ouais, voilà.
Tu as
gâché mon effet, je voulais l'expliquer, mais non, voilà. Je vais raconter l'autre moment où il marche dans une crotte de chien, et grâce à son doigt, il renvoie le caca dans le trou de balle du chien instantanément. Voilà, on est sur le bon goût. Non, mais ça, c'est la publicité française de la Nintendo DS Tank, donc la version
de 2005,
qui vient de sortir avec la pub, c'était pour Metroid Prime Hunters. Et en fait, assez rapidement, ils ont commencé à shifter vers autre chose. Mais c'est vraiment fascinant en fait de regarder toute cette époque, puisque Nintendo, ils sortent d'un échec cuisant qui est la GameCube, qui était à l'époque leur plus mauvais score en termes de vente de consoles de salon. Donc ils misent entre guillemets tout sur le portable. Et la Nintendo DS essaye de se positionner face à la PlayStation portable, puisque ça y est,
c'est
PlayStation
PSP,
arrive avec la peu se peut. Souvenez-vous. Et donc, en fait, ils arrivent finalement à pas forcément avoir une identité très claire sur leur console, puisque, comme toujours, ils sont en retard par rapport à la puissance de la machine en face, avec les fameux petits UMD, etc. Mm-hmm. Et donc, ils vont changer leur positionnement à partir de 2006-2007 pour complètement, en fait, virer du discours marketing le côté puissance, le côté gamer, le côté ado, et ils vont passer vers le bien-être,
en fait,
le zen,
ce qui est important de noter, c'est quand même en 2005, il y a des jeux qui vont sortir sur DS et qui vont provoquer un petit peu ce...
Oui, c'est un peu l'œuf et la poule, c'est-à-dire que...
Ils vont réaliser les choses, parce qu'il y a notamment un jeu qui s'appelle donc Le Professeur Kawashima...
Quel âge à votre cerveau ?
Voilà, quel âge à votre cerveau ?
Il y a aussi Nintendogs en 2005.
En fait, c'est les deux, il y a Nintendogs et Professeur Kawashima qui sont, à eux deux, quasiment les meilleurs vente sur Nintendo DS, hein. Le seul autre licence, c'est Pokémon. Et ces deux titres-là, bah, ça va être des cartons absolument faramineux. Et en fait, bah, on comprend tout de suite que Nintendo, il fait attends, ça, les gens là, ils ont
ça
envie
peut
de
marcher.
Ils ont envie de gigoter avec leur petit stylet.
Ce
et
qu'ils se rendent compte très
chiens.
Vite, en fait, c'est que parmi leur public, il n'y a pas que des ados, il y a aussi des enfants et leurs parents jouent également. Puisqu'en fait, le tactile, c'est ça qu'ils vont se rendre compte et qui va, bah, en fait, quand on le voit a posteriori, ça paraît évident, mais pour l'époque, c'était quand même assez brillant de leur part de se rendre compte. Le tactile a un côté universel, tu vois, dans la manière de contrôler, qui enlève toutes les
barrières,
tu sais,
en
toutes
fait,
les barrières, voilà, liées au fait d'utiliser
les
des
boutons,
des machins, des trucs et tout.
Il y a un effort, il y a un petit langage à connaître que le tactile, en fait, il y a une ergonomie et une universalité.
En plus,
ils vendent
ça avec
pardon.
Un stylet et
exactement.
A priori, tout le monde a appris à écrire, tu vois, pas loin, et donc forcément, on sait utiliser un stylet, on comprend, tu vois, l'utilisation du truc. Il y a quelque chose de très universel là-dedans.
Et côté jeu aussi, parce que faut préciser peut-être un petit peu ce qu'est Kawashima, Dr. Saba et tout, et globalement, c'est trucs de calcul mental, il y a vraiment c'était pas beaucoup d'exo hein, ou de
non,
jeux
non,
entre
y
guillemets,
il y avait du sudoku dedans,
il y avait du sudoku, il y avait un truc,
fallait rendre
la monnaie, littéralement tu fais la caisse et on te donne voilà 20, ça coûtait 14,50 et il faut rentrer dans la DS combien
5,50.
Oh là là, mais toi ton cerveau il a
bah, bien sûr
temps, toi.
Ah bah facile ouais
et,
bien sûr.
Et donc des jeux qui te demandent pas non plus d'avoir joué aux anciens ou de maîtriser toute cette grammaire, et donc ouais, ils ont dû se rendre compte que il y avait un marché en fait pour ça, il y avait des gens à qui ça plaisait et c'était pas du coup le jeune ado, c'était plutôt donc sa mère comme tu l'as dit, et là donc oui, on a vu un shift dans les pubs où là c'est Michel Larocque en France qui joue dans un spot télé.
Notez-le,
une voilà
fois.
Michel Larocque. Mais ouais, non, mais c'est quand même ouf quand il pense. Et aux États-Unis.
Non, mais c'est.
Non, mais oui,
c'est Michel Larocque.
C'est Michel Larocque, quoi.
Comme
ça. Trois fois.
Et aux États-Unis, il y a Nicole Kidman. Il y a, j'ai oublié son nom, l'actrice qui joue Phoebe dans Friends.
Lisa Kudrow.
Voilà. Et alors, un peu moins daronne, Beyoncé.
Et il y a Beyoncé qui était quand même. Voilà, c'est pas n'importe
qui faisait le professeur Kawashima. Non, mais c'est vrai que quand ça sort, en fait, le professeur Kawashima, déjà, il y a plusieurs trucs qui sont très malins. La console, on n'est pas obligé de l'utiliser en format donc paysage. On peut l'utiliser en format portrait. Comme un petit livre.
Comme un petit livre.
Et
un
encore
livre,
une fois,
c'est
tu vois.
Intelligent.
Et un livre, c'est intelligent. Non, non, mais, tu vois, dit comme ça, ça paraît bête, mais en fait, non, c'est évidemment que ça qu'ils ont pensé. C'est vraiment, ils ont réussi à transformer le discours autour du jeu vidéo. Nintendo, on s'en rend peut-être pas compte à l'époque, et en plus, ils sont même plutôt, on va dire, dénigrés par une partie du public gamer qui se dit les casus. Alors, on parle pas encore de casus à l'époque, on parle de snack gaming.
Ouais, bah, c'est à ce moment-là que ça va commencer à se transformer, en fait. En
l'invention du mot casu, tu vois, va pas tarder à arriver. Mais Nintendo, en fait, ils ont contribué à faire en sorte que le discours autour du jeu vidéo ne soit plus que négatif. On n'est plus dans des jeux qui abrutissent. Ils ont réussi à installer, enfin, tu vois, à l'époque, tu regardais 2005-2006 vers 13h30, Jean-Pierre Pernaut sur TF1 te disait le professeur Kawashima dans les petits villages de France, machin, et il te montrait des petits vieux qui étaient dans leur, tu vois, ils disaient oui, bah moi, comme ça, je peux éviter de pas avoir la maladie de Parkinson, là, ou
C'est un remède d'Alzheimer, hein. Il n'y a plus besoin de faire de recherche, a priori.
Et c'est en été là, c'est-à-dire que tu te disais, ben oui, avec la Nintendo DS, ils ont réussi à faire en sorte que le jeu vidéo, ça soit quelque chose de positif dans le discours global, tu vois, de la société. Et ça, ça n'avait jamais été le cas jusqu'à présent.
Et c'est donc une console qui est devenue extrêmement populaire. Aujourd'hui, c'est la deuxième console la plus vendue, donc c'est juste derrière la PlayStation 2, qui, elle, avait le lecteur DVD. Ça a aussi été un truc qui a permis de faire entrer dans beaucoup de foyers. Mais voilà, la deuxième console la plus vendue, énorme succès, avec en plus toutes les versions, notamment la Lite, hein, la DS Lite, qui est vraiment, je pense, celle que le plus de monde
a. La DS Lite, la DSi, la 3DS qui est arrivée, après, la 3DS
nouvelle, XL. Nouvelle génération, mais oui.
Et puis juste, je fais un mini pas de côté, parce que là, on parle quand même d'une époque, tu vois, tu parlais du casual gaming, et bah, Nintendo a confirmé vraiment ça, ou a encore œuf ou la poule, je ne sais pas, mais il y a eu la Wii qui sort, je crois, en 2006.
C'est ça, ouais.
Et encore une fois, il y a une version du Dr. Kawashima qui existe sur Wii, il y a eu la Wii Fit, donc là, on est aussi, c'est pas que bon pour le cerveau, mais aussi pour le corps.
Mais oui.
On est toujours dans ces délires-là. Et le côté très familial avec le motion gaming. Tu parlais du tactile, on n'avait jamais eu ça, machin. Alors, motion gaming, il y avait déjà eu avant, hein, mais là, avec la Wii, c'est vraiment une nouveauté. Il y a Wii Sport qui est avec le jeu, et on va voir les grands-parents qui jouent avec les parents, qui jouent avec les enfants. En tout cas, c'est l'image qu'ils essaient de donner.
Et c'est super important, en fait. Enfin, vraiment, on peut pas sous-estimer l'importance en termes d'image, tu sais, d'imaginaire global du jeu vidéo.
Culturellement,
ça a été vraiment une transformation. L'arrivée de la Nintendo DS et de la Wii dans la foulée, c'est vraiment, tu vois les pubs Nintendo et d'un coup tout le monde est habillé en blanc, avec des pantalons,
ils sont dans des beaux environnements, parce qu'ils avaient choisi vraiment, tu sais, il y avait une DA en fait, ils avaient décidé, voilà, tout était en blanc, les petits papis, ils avaient des cheveux blancs, tu sais, vraiment d'un blanc maculé comme
mais
ça,
bien
parce
sûr, ils sont tous beaux,
ils sont sages, voilà. C'est ça, ils sont vieux mais ils sont
t'as
beaux,
t'as l'impression d'être dans Portal un peu,
ouais, il y a un petit côté comme ça, mais tu vois, c'était que des familles heureuses, tout le monde jouait ensemble, soit la DS, voilà, encore une fois, Michel Larocque dans son petit canapé, tout était blanc, sa Nintendo DS, elle était blanche, il y avait
une esthétique, Beyoncé, en fait. Elle est là en train de dire, bah moi je travaille 24 heures sur 24, je suis toujours en train d'apprendre à décorer, et là tu la vois dans son petit canapé avec un enfant qui passe par là, elle joue avec son petit Kawashima, tu te dis, oh Beyoncé, elle fait comme moi, elle joue dans son petit canapé.
Exactement, pareil, tu as la même vie que Beyoncé finalement.
Mais pas loin.
Si tu achètes une Nintendo DS.
Ah, mais c'est donc ça, le secret, voilà, acheter une Nintendo DS.
C'est un truc qui se retrouvait en vrai jusque dans le hardware, parce que la Wii, c'est ça, toujours dans ce côté communication, même image ou cohérence, hein, c'est que bah, d'un point de vue technique et même support, tu sais, elle lisait pas les DVD, pas les Blu-ray, la Wii elle coûtait je crois 250,
elle avait pas le port Ethernet, il fallait acheter un adaptateur si tu voulais jouer sur internet, lol,
donc c'était pas du tout la course au graphisme, et bon, la PS3 elle sortait à 600 balles, quelque chose comme ça de
oui,
mémoire,
ouais, c'était
positionnement différent.
Et bon, après, la partie un peu plus dark de cette période là c'est aussi que c'était les deux consoles, la Nintendo DS et la Wii, qui étaient les plus faciles à pirater, et donc bah forcément dans un contexte où justement en face il y avait des PSP qui coûtaient assez cher, même si c'était facile à craquer, les PlayStation 3 et Xbox 360 coûtaient très cher, en fait il y a toute une frange de la population qui avait pas forcément les moyens, qui d'un coup pouvait acheter une DS d'occasion, tu sais, dans un état dégueulasse,
ouais,
et la fameuse R4
et jouer à absolument
tous les jeux de l'univers
Nintendo DS. Je pense que voilà, si vous avez pas connu cette expérience là sur DS, vous n'avez pas connu la vraie expérience de la Nintendo
mais,
DS.
Tu sais, moi c'est l'époque où je bossais du coup en magasin, et c'était terrifiant, c'était à longueur de journée, on expliquait à des gens, bah non, en fait on vend pas de R4, parce que bah c'était vendu même là à Strasbourg, il y avait un magasin qui était connu parce qu'il les vendait justement en mode un des premiers types qui avait importé les R4, et tu te dis, bah oui, pour les gens c'était devenu normal, oui, bah on met la R4 et il y a tous les jeux.
Ce que c'est, voilà,
oui, donc c'est en fait bêtement une cartouche, ouais, tout simplement, dans laquelle
avec une carte SD
dans laquelle vous alliez pouvoir charger vos ROM,
parce que bon, ça pesait que dalle, hein, le jeu de DS, donc ça rentrait largement. Et mais c'est fou parce qu'on se dit quand même, tu vois, on regardait les chiffres de vente des jeux de DS, et en fait c'est pas dingos, tu vois, par rapport à la Switch par exemple, tu vois, c'est pas dingos, et j'imagine que la R4 quand même a dû un peu blesser le marché, tu vois.
À l'époque,
je
Nintendo,
pense que les chiffres, ça a peut-être différence s'il n'y avait pas eu ce truc-là.
Là, faudrait, je vais pas vraiment fouiller tout ça,
non,
parce que c'est.
Que je pose la question là maintenant.
Voilà.
Hein,
ouais,
voilà,
tu vois, on en parle un petit peu au débeauté, mais c'est parce que je me souviens très bien d'avoir lu des articles vraiment de l'armada judiciaire de Nintendo pour défoncer la R4 pour empêcher, tu vois, la propagation de ces trucs-là, c'était un truc de fou. Parce que en parallèle, tu vois, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'il y a tellement de faisceaux. 2007, c'est l'iPhone. Le jailbreak de l'iPhone, c'est 2008. Souvenez-vous, c'est juste après. Et donc, en fait, cette idée de piratage de masse qui est accessible à tout le monde, tu vas dans une boutique et hop, ton téléphone, il est débloqué, débridé, ta Nintendo DS, elle a 1h04. Il y avait cette espèce de période, tu sais, de vraiment de transgression où c'était devenu normal, entre guillemets, d'avoir ton téléphone pété, enfin, craqué, ta console jailbreak,
etc. Tu mets un petit DRM, il n'y a pas de problème, et voilà.
Et exactement. Et, voilà. C'est à cette période, justement, en parallèle, que sur PC, les DRM, des nouveaux, les machins, etc., commencent à devenir de plus en plus énervés. Et le marché PC s'écrase jusqu'à ce que Steam reprenne le flambeau. Mais tu vois, vraiment, il y a tout ce faisceau, en fait, vraiment, de la peur du piratage, la peur de, le téléchargement, les machins, les bidules, puisque il y avait les connexions Internet qui augmentaient. Bref.
Après, pour mettre un petit taquet quand même à la DS, c'est que tu avais des jeux aussi qui étaient un peu nuls à chier, vendus 40 euros. Typiquement, tu sais, des jeux qui veulent gagner des millions, des jeux Koh-Lanta, Bienvenue chez les Ch'tis.
Bienvenue chez les Ch'tis, c'est une des meilleures ventes
PlayStation
de la Wii.
De toute façon, ces deux consoles-là, PlayStation 2 et Nintendo DS, il y a un catalogue, mais c'est l'enfer, tout a été dessus.
Sur les consoles de salon, alors évidemment, aujourd'hui, ça compte plus, mais en version physique, la PS2 était la console qui avait le plus de jeux à son catalogue. Oui. Elle avait vraiment le catalogue le plus vaste, c'était des milliers de références, c'était l'enfer. Des jeux pourris, évidemment, toute l'époque des Davilex, etc. Mais sur Nintendo, c'était la même merde.
Ouais, c'était exactement pareil.
Nintendo DS, et oui, c'était l'enfer en magasin, je vous assure. Quand tu voyais arriver, tu sais, les jeux, le code de la route, qui veut gagner des millions, le truc là, tu sais, où tu dois réparer la maison, là, avec machinette qui fait. Tu sais,
déco.
Il y a un jeu déco.
Mais tu te rends compte qu'il y a eu une fuite en avant, parce que tu dis aujourd'hui, tu vois, avec les coûts qu'augmentaient, M6, c'est mort, on va pas faire un jeu déco, tu vois. Mais là, à l'époque, tu vois, c'était possible.
Une des plus grosses séries d'Ubisoft à l'époque sur la Nintendo DS, ça s'appelait.
Alexandre Lederman ?
Non, l'autre. Comment ça s'appelait?
Mais de quoi?
Tu sais, la série là où il y en a eu plein, là, Martine.
Non, c'est pas Martine.
Ah merde, j'ai oublié de nom.
C'est des livres, Benoît.
Ah, j'ai oublié de nom, ça m'énerve.
Ah, tu retrouves.
J'aime pas quand ça
Léa
Vétérinaire. Léa Passion. Tous les Léa Passion, c'était la folie.
C'était Ubi, ça.
Et ouais, ils étaient derrière, ils étaient à l'édition.
Bah, en même temps, là, j'ai appris avec vous, parce que moi, j'ai jamais joué à Nintendo, qu'il y avait, si tu voulais tous les chiens, fallait acheter genre 5 fois le jeu.
Oui, il y a eu 5 versions, voilà, avec Dalmatien, Shiba, Chihuahua et tout, voilà.
Ça, c'est abusé. Quand même.
Mais non, Maxime, oh là là, tu n'aimes pas voir. Toi,
genre
pas
sur
l'argent.
La cartouche, il n'y avait pas la place pour le Labrador et le Dachshund.
T'aimes pas la réussite, vraiment... Maxime, je pense.
Autant Pokémon, ok, Pokémon rouge et bleu, il n'y a pas de souci, mais là.
Est-ce que t'achètes les Battle Pass hein? Bon. Non, mais blague à part, c'est une époque qui est assez fascinante à regarder parce qu'il y a une transformation profonde de tout un tas de choses entre l'arrivée donc des écrans tactiles, l'arrivée des smartphones, du tactile, l'augmentation des vitesses de connexion internet. Enfin, il y a tellement de technologies
qui sont dépassées
là. Le début du millénaire, c'est
Nintendo, ils ont réussi un peu à mettre un pied dans ce truc et à être un peu premier là-dessus dans cette façon de voir changer la culture. Mm-hmm. Et vraiment, la DS et la Wii, c'est les illustrations vraiment de ces succès-là qu'ils ont su voir certaines choses changer. Après, ils sont revenus à des choses plus traditionnelles. Et puis, aujourd'hui, la Switch, c'est aussi un succès, mais grâce à d'autres facteurs, en fait. Mais voilà, sur cette période-là, ils ont su voir les choses. Ça que tu vois, PlayStation et tout, et Xbox avaient tenté de faire des trucs avec le Kinect, l'iToy, machin. Bon, ça avait été moins.
Et surtout, ils n'avaient pas, en fait.
L'iToy, c'était. Oh, pour le coup, c'était.
Oui, c'était sorti avant
PS2. Mais effectivement, Kinect, ça surfait complètement sur.
Mais c'est fin de PS2.
Sur la Play 2, moi, j'avais Buzz, le jeu, les buzzers, là. C'était marrant, tu vois. Mais ils n'ont jamais suivi que Nintendo. Ils ont vraiment commit au truc à fond, donc ils ont vraiment poussé cette vision-là du jeu vidéo, ce discours-là du jeu vidéo. Alors ça leur a joué des tours, parce que une fois que tout le monde avait eu la Wii, personne a acheté la Wii U, donc on le sait, ça a été un four. Mais pendant quelques années, ils ont réussi vraiment à donner le là et à donner le ton, tu vois, d'une façon de vendre le jeu vidéo. Et à l'époque, ils le disaient, leur principal concurrent, c'était Apple, quoi, parce qu'ils voyaient bien l'arrivée de l'App Store, de l'iPhone et tout comme étant une menace entre guillemets pour le temps des gens. Et ça s'est avéré, parce qu'aujourd'hui, 90% de la population mondiale a un smartphone dans les poches.
On va en reparler de toute façon de tout ça, d'un peu de l'après, entre guillemets, casual gaming ou DS Wii, mais pour l'instant, voilà, on est au début de la DS et ça inspire.
Exactement, tout à fait. Level 5 voit la Nintendo DS, voit qu'il y a une. En fait, ils étaient sur PlayStation 2, après ils se sont dit, tiens, il y a une autre console qui marche vachement bien, vas-y, on va essayer de créer quelque chose dessus. Et puis surtout, c'était une opportunité pour créer quelque chose de différent, sortir un petit peu du JRPG, essayer de faire autre chose. Et donc, Akihiro Ino. Lui, il était fan d'une série de magazines. Alors, on n'a pas le nom japonais, mais en français ou en anglais, ça se traduit par Head Gymnastics. Alors,
en
français,
pas le japonais, ça doit se trouver. Ça se trouve
la gymnastique de la tête.
La gymnastique de la tête, voilà, tout à fait. Les exercices physiques de la tête.
Le cerveau fait des pompes.
Ok, ça y est, je savais que je pouvais vous lancer très facilement là-dessus. Mais bref, c'est une série en fait de livres d'énigmes qui était créée par un professeur, un vrai professeur qui s'appelle Akira Tago et qui avait démarré dans les années 60 et puis juste pendant très longtemps, qui a existé longtemps au Japon. Et c'est quand même 12 millions d'exemplaires qui ont été vendus, donc vraiment quelque chose de très populaire au Japon. Et voilà, Akira, il était fan de ça et... Il avait toujours eu l'envie d'en faire une adaptation en jeu vidéo, d'essayer de les porter en jeu vidéo. Et il est allé voir ce fameux professeur Akira Tago. Ils ont discuté ensemble et il l'a convaincu de venir travailler avec eux à Level 5. Il l'a invité au studio. D'ailleurs, voilà, Tago a débarqué au studio. Il a vu Level 5. Il a dit, c'est incroyable et tout. Ces gens-là ont l'air passionnés, heureux.
Et petite anecdote, apparemment, leur rencontre. Donc Tago a fait un tour de magie à Ino et c'est ça qui a donné l'idée du chapeau de forme, un peu du chara-design, un peu
petite anecdote.
Juste pour faire une mini parenthèse sur Tago, comme tu le disais, il est giga connu, en tout cas ses livres sont très connus, et il y a une interview de Famitsu un peu avant la sortie de Letton, qui est un magazine très connu au Japon.
C'est le magazine au Japon.
Et Tago, il est connu en fait, donc il l'appelle, je sais plus, j'ai juste noté vite fait... Il parle du légendaire créateur de puzzle. En fait, ça fait aussi effet d'annonce. Tu vas avoir les yeux rivés sur les tonnes quand t'es au Japon parce qu'il y a ce nom qui est associé. Il y a ce phénomène de puzzle et énigme.
Et puis aussi Tago qui se laisse convaincre parce que il voyait pas forcément le jeu vidéo d'un très bon œil. Voilà où il fallait se tirer dessus, où il y avait une espèce de violence qui n'était pas forcément nécessaire. Et justement, l'idée de travailler sur un jeu vidéo qui serait plus zen, résolution de puzzle, plus proche de ce qui est de sa philosophie, ça lui plairait. Et c'est ce qui a fait qu'ils ont pu collaborer ensemble. Alors à la base, l'idée c'était de littéralement adapter les jeux, j'imagine que ça serait appelé le même nom que la série, mais apparemment il y avait des questions de droit, et puis aussi chez Level 5 ils se sont dit que ça pourrait peut-être être l'opportunité de créer une nouvelle licence, et puis surtout peut-être de rajouter une petite histoire pour faire plus en fait qu'une simple collection.
En fonction des interviews, on peut les dire différents. Soit, comme tu as dit, c'est vraiment des questions de droit qui ont motivé ça. Moi j'avais lu dans une autre interview où ils disent que justement en fait il y a le raz-de-marée Kawashima, je crois que c'est genre plus de 20 millions à la série, les différents épisodes, c'est vraiment
et
phénomène culturel.
Michel Larocque,
gros phénomène culturel comme on dit, il y a des clones qui commencent à apparaître, forcément c'est pas très cher, et voyant ça ils se disent on veut pas être distingué de la marée, on va en profiter aussi pour faire un jeu un peu plus aventure histoire autour de tout ça.
Exactement. Alors, ils vont reprendre la plupart des puzzles qui sont dans le Professeur Layton, sont des puzzles que Tago avait déjà fait. Ils en ont repris plus d'une centaine, mais ils vont quand même en créer une trentaine inédits pour la Nintendo DS, et justement va essayer d'exploiter le tactile. Alors, on ne sait pas vraiment lesquels sont ces puzzles-là, mais on peut imaginer que c'est ceux qui profitaient vraiment le plus de cette spécificité du tactile, d'utiliser le stylet pour résoudre les puzzles. Et puis pour l'histoire, ils ne vont pas aller chercher bien loin, ils vont aller prendre l'exemple du Sherlock Holmes, accompagné de son cher Watson, sauf que là ce sera un petit gamin, et rouler jeunesse, ça y est, on a notre histoire, il faut résoudre un
ils se sont dit ça se passera là-bas, là tu sais, en Europe, donc qu'est-ce qu'ils font là-bas, ils fromage, accordéon, cornemuse,
Marcel Blanc, et puis voilà, et Professeur Layton qui est un professeur d'archéologie aussi, parce qu'on va mettre un peu d'Indiana Jones dans
c'est un gentleman anglais, il est vraiment
Herschel, son prénom
Herschel Layton, c'est très, alors l'esthétique est très cottagecore, pour celles et ceux qui sont un petit peu dans la déco intérieure, ça vous parlera, on est là-dessus. Le jeu sort, c'est un succès, 85 sur Metacritic, déjà il est très bien reçu par la presse en général, et par les joueurs évidemment, et puis à terme ce sera 3,5 millions d'exemplaires qui seront écoulés de ce premier épisode, le deuxième se vendra un petit peu plus, qui est en fait déjà quand même le 25e jeu le plus vendu de la Nintendo DS, donc c'est pas rien quand même. Alors même si on est loin des 20 millions de Nintendo Dogs, mais en même temps quand tu sors 5 versions c'est un peu plus facile, mais c'est quand même un gros succès pour la Nintendo DS, un vrai succès commercial qui va permettre à Level 5 de s'engouffrer dans cette nouvelle série. On va passer à l'histoire, mais avant ça je vous rappelle que vous pouvez nous soutenir sur Patreon, la page Patreon qui est dans la description. 1€, 2€, 3€, vous pouvez soutenir la création de cette émission qui nous permet de prendre le temps pour jouer au jeu, faire toutes les recherches qu'on vient juste de vous raconter, et puis toutes les analyses que nous vous proposons par la suite. C'est grâce à vous qu'on peut le faire, donc merci énormément de nous soutenir sur Patreon. L'histoire. direction Saint-Mystère.
Exactement, voilà, petite ville de l'Aveyron, pas très loin
de Burlingame.
Voilà, c'est ça, de Burlingame en Aveyron. Voilà, on sait pas trop en fait, non, c'est vrai qu'il y a plus une ambiance un petit peu Angleterre, un peu, voilà, vraiment campagne anglaise, etc. Donc le professeur Layton, en fait, est appelé par la famille du baron. Alors, chaque fois, j'oublie son nom, je sais pas pourquoi, parce que c'est Reynolds, on le dit tout le temps. Il va au village de Saint-Mystère pour résoudre le mystère de la pomme d'or, qui serait un trésor absolument incroyable qui aurait été laissé par le baron Reynolds qui est mort, en fait, tout simplement. Et donc, bah, toute cette question d'héritage a besoin non pas d'un notaire, d'un avocat, tu vois, de n'importe quoi, ils ont besoin du professeur Layton, qui arrive évidemment avec Luke. Ils arrivent au petit village. Malheureusement, au moment où ils rentrent dans le petit village, le type qui s'occupe de la manivelle du pont la perd.
Mais oui,
la manivelle est perdue, plus personne ne peut sortir du village, voilà, huis clos, tout le monde est bloqué,
voilà, c'est
pratique.
C'est facile, c'est un huis clos. Oui.
Non, peut-être que quelqu'un a réussi à rentrer, puisque quelqu'un une grande moustache qui pique est peut-être rentré. Et surtout, quelques minutes après l'arrivée du professeur Layton dans le village, un crime a lieu au manoir du baron Reynolds, un type dont j'ai complètement oublié le nom, qui n'a aucune espèce d'importance.
Ouais, beau-fils, neveu, on s'en fout.
Un type est mort. Et donc, en fait, l'inspecteur Shelmy, donc le policier local, est déjà sur place. Et évidemment, lui, avec son petit nez, il se dit, c'est forcément le professeur Layton.
Et bah oui, bah c'est lui.
Parce qu'il n'y a que lui qui est arrivé.
Il vient de débarquer, il y a un meurtre.
C'est un étranger.
Ah bah alors,
voilà.
Ça suffit quand même.
Bah, quelqu'un qui ne vient pas du village, c'est forcément lui, cette personne-là, qui est truc. Et donc, bah, pendant ce temps, le professeur Layton va évidemment essayer de résoudre le mystère de la pomme d'or, mais aussi de laver son honneur son nom. Et donc, il va aller demander de l'aide aux villageois. Et ces villageois, en fait, ont une particularité, c'est que dès que tu leur dis bonjour, ils te disent mais justement, ça me fait penser, j'ai une chèvre, un loup et un mouton.
Alors, j'ai de la mie, si je fais trois petites boules et que j'en lance deux sur ta tête, ça permet de faire une ligne. C'est vrai que voilà, tout ce village, étrangement, tous ces gens, ils sont obsédés par des énigmes. Alors, parfois, c'est des énigmes qui les concernent eux, et parfois, c'est un truc.
Ah non, mais ça a vraiment aucun rapport. Voilà. Salut, ça va. Oui, ça va. D'ailleurs, je me souviens de. C'est vraiment, c'est trop drôle parce que c'est le truc, tu te dis, ils vont réussir à faire en sorte que tout le monde pense à une ligne. Ils vont dire, ça me fait penser à, et basta.
Même Layton et Luke, de temps en temps,
ils s'en donnent. Ils s'ennuient. Non, mais c'est Layton, il est là aussi un petit peu pour le former, ce gamin. Tu vois, ils sont Luke. Hein, on va essayer d'en faire un bon petit bonhomme.
Voilà, qui sait réfléchir, qui sait penser.
Mais bien sûr.
Parfois, Layton, tu vois, il laisse Luke répondre, mais lui, il sait déjà tout.
Il a déjà la réponse. De toute façon, le professeur Layton, il est beaucoup trop fort. Ils vont évidemment aller d'énigme en énigme. Ils vont se faire poursuivre par une grande roue. À un moment donné, il y a une course poursuite vraiment absolument incroyable.
Oui, mais il y a des cinématiques très réussies, pas énormément, mais qui sont très bien.
Ils vont tomber sur une jeune fille cachée par un petit foulard qui est bien mystérieuse, et en plus, elle ressemble étrangement à littéralement la peinture de la fille Reynolds, qu'on n'a encore jamais vu jusqu'à présent.
Ça, c'est bizarre.
Mystère.
Ouais.
Et surtout, en plein milieu de Saint-Mystère, tu sais, il y a une maison, donc c'est un Jenga de maisons qui ont été posées les unes sur les autres, qui fait 550 mètres de haut. Personne ne s'en étonne, tu vois,
encore
tout va bien.
Encore un mystère.
Encore un autre mystère.
D'ailleurs, il y a une espèce de plan, un moment, genre, où tu vois, depuis, grosso modo, la tour, ils se sont dit, bon, faut qu'on mette le village un peu à l'échelle par rapport à la tour. Et en fait, le village, il fait genre 40 000 habitants.
Oui, c'est immense d'un coup. Toi, tu te balades, franchement, la map, elle est vraiment. C'est Paris, tu sais. Grande, tu vois, mais par contre, c'est Paris quand tu regardes. Voilà, c'est ça. Oui, on est sur du 3 millions d'habitants en mètre carré, c'est chez nous.
Et donc, en fait, qu'est-ce qui s'était passé? Ben, à la fin, on va enfin réussir à avoir accès à cette tour, et en haut de la tour, on a la réponse ultime au mystère de la pomme d'or. Et alors là, accrochez-vous, parce que là,
twist sur twist,
ça n'arrête pas. Le baron Reynolds, en fait, se sachant aux portes de la mort et après avoir perdu sa chère femme, s'est dit, mais qui va s'occuper de Flora, notre jeune fille? Qui va s'en occuper? Et il s'est dit, eh ben, j'ai un frère, un oncle, une tante, tu vois, quoi que ce soit, je pourrais leur demander.
Non.
Il s'est dit, je vais fabriquer un village à partir de rien. Je vais demander à mon pote, l'ingénieur Roger, de créer des automates. Et ces automates auront pour fonction d'interroger les gens qui viendraient dans ce village et de leur poser des énigmes. Toutes ces énigmes, en fait, leur permettraient de mettre un faisceau d'indices qui leur permettrait de comprendre le mystère de la pomme d'or et de redonner le sourire à Flora, qui est en fait la pomme d'or. Non, incroyable.
Il fallait quelqu'un, selon les exigences du baron, assez intelligent pour résoudre toutes les énigmes. Enfin, plutôt, les énigmes sont là pour prouver que la personne est assez intelligente. Voilà, globalement, à partir de 12-13 ans, vous pouvez y aller. une personne
aussi,
qui peut redonner le
sourire. Bienveillant pour pouvoir redonner le sourire.
Ce qui n'est pas tous les élèves de 5e.
Et quand Flora sourit, en fait, il y a une petite pomme d'or qui apparaît sur son cou, et elle apparaît également en parallèle, par magie, c'est comme ça, ta gueule, sur le tableau de la jeune fille, et quand t'appuies là,
en tout cas,
bim, c'est là où il y a le trésor qui est là.
Le trésor.
D'accord.
Mais Dernière chose, c'est que le trésor, une fois qu'il est pris, il va désactiver tous les automates, tout le village, puisque bon, bah, c'était ça, son but, c'était le sens du trésor. Et Flora décide de laisser le trésor pour laisser les petits automates et les recueillir par
Et ils vivront heureux jusqu'à la mort du seul type qui s'occupe de la maintenance du truc et qui doit travailler 24 heures sur 24, pauvre gars, qu'on a oublié. Hein. Lui, son existence a été complètement effacée.
Oui, on est sur un dessin animé, un peu enfantin cartoon, faut pas trop questionner. Hein,
on est d'accord.
Le méchant, la Moriarty.
Oui, et justement, on avait oublié le professeur Moriarty. Et c'était déguisé. Alors, on sait pas comment il a réussi à rentrer sa moustache dans son masque d'inspecteur Shelby. Hein. Mais il y a un côté très Scooby-Doo à la fin, non, en fait, je ne suis pas l'inspecteur. Gadget. Ou inspecteur Gadget. Évidemment, il veut se venger de quoi, on ne sait pas. Mais il y a une espèce de.
Je suis sûr que c'est très intéressant.
Il y a une histoire entre les deux, manifestement. Moi, j'ai soupçonné que le professeur Layton avait résolu un sudoku sans demander la permission au type pendant qu'il buvait son petit café
en fait,
et il l'a mal vécu et depuis il est devenu méchant
plus jamais c'est ça.
Et à la fin, Flora vient vivre avec Luc et Layton et on la retrouvera du coup dans
les
épisodes.
Autres épisodes. C'était donc l'histoire. Merci de nous avoir raconté cette belle aventure.
Et je l'ai fait il y a pas longtemps et j'étais Doyle-esque. Mort de rire, vraiment, de me dire ils ont réussi. Tu sais, il y a cette espèce d'obsession. Alors c'est très dans les jeux japonais de vouloir justifier tout ce qui se passe. Tu vois, genre il faut qu'il y ait une explication. Oui, les gens posent des énigmes parce qu'en fait, ce sont des robots et ce sont des robots parce qu'ils ont besoin de s'occuper de la fille, etc. Mais tu sais, c'est genre pour eux, c'est normal.
Ouais, mais moi en vrai, j'aime bien ce côté. C'est un jeu de puzzle avant tout. Il y a cet habillage autour et il y a quand même une raison pour laquelle il pose des énigmes. Et tu vois ce petit détail. Mais comme dit, faut pas trop questionner le truc. Ça va. Pour un jeu de puzzle, en fait, je suis agréablement surpris.
Oui. C'est vrai que ça fonctionne bien et d'ailleurs on va peut-être pouvoir rentrer un petit peu dans l'analyse parce que au-delà de cette histoire qui est peut-être qui est amusante et qui est un peu enfantine comme ça mais qui se laisse suivre finalement assez bien, le reste en fait sur l'habillage esthétique, là on a quand même une vraie réussite. Déjà visuellement c'est un jeu qui est très joli, ils ont fait le choix d'aller s'inspirer vraiment de ces couleurs un peu particulières. Ça te faisait penser à un dessin animé toi ?
Oui, moi du coup il y a Les Triplettes de Belleville qui sort en 2002 et qui est un film d'animation qui a quand même beaucoup marqué le début du siècle. Et clairement, tu sens que ils ont dû le voir à un moment donné parce qu'on retrouve même déjà dans les couleurs, certes, dans la façon de créer les environnements, mais surtout dans la façon de proportionner ces personnages. Ouais. Il y a quelque chose de très important avec le professeur Layton qui le distingue.
On n'est pas dans de l'animé,
On n'est pas dans de l'animé japonais, on n'est pas non plus dans du canon de beauté, tu sais, avec des gens qui sont tous très beaux, des filles qui sont tous des très belles formes, etc. Et tout le monde en fait a des formes un peu étranges, tu vois, il y a des gens, des gros, des petits, des machins, des bidules, et ça apporte une diversité visuellement et artistiquement qu'on n'avait pas l'habitude de voir dans les jeux vidéo. Enfin, tu sais, c'est level 5, c'est des JRPG, donc tout le monde est super bien, tu vois, etc. C'est le héros de 15 ans qui va sauver l'univers. Bref, il y avait quelque chose de très différent et qui colle bien justement avec cette idée de proposer un jeu qui est, tu vois, un petit peu un pas de côté par rapport au côté très gamer. Je trouve que c'est une très très bonne chose d'accompagner le côté casu sans que ça soit négatif par une esthétique qui tranche avec le délire du jeu vidéo.
Ouais, des persos, il y en a beaucoup, mine de rien, mais il y a bien eu ce côté on veut faire un village, tu vois, un petit village et va y avoir, je sais pas, le maire, le boucher, la personne au marché, tu vois, la personne qui gère l'hôtel, tu vois, il y a un peu ces petites fonctions que tu trouves dans plein d'histoires, des personnages identifiables mais qui ont aussi ce métier, ça donne du corps en fait à ce curieux village.
Et puis même le caractère design du professeur Layton qui va vraiment devenir iconique, tu vois, avec cette forme. Parce qu'il est assez simple, en fait, son caractère design, mais il y a une élégance et une simplicité, une efficacité,
en fait, dans la silhouette,
exactement.
Qui marche très, très
bien. Et tu trouves que vraiment, ça marche super bien, quoi. Et puis aussi, le petit personnage de Luc, enfin, tu vois, le duo comme ça, qui fonctionne bien. Enfin, il se repose sur des codes qui sont assez bien établis, mais les exploite vachement bien. Et ça donne un truc qui est d'une efficacité, je trouve, qui est assez redoutable.
Et tu vois, un truc tout con, mais la première énigme du jeu, c'est celle qui permet de déterminer qu'en fait, la largeur du chapeau forme de professeur Layton est identique à la hauteur du chapeau. Ouais. Et tu sais, genre, ils se sont dit, voilà, le chapeau, ça va être un peu le truc iconique. Et ils lancent, en fait, le jeu sur cette petite énigme-là, quoi, avec une bête histoire de. Bon, c'est une. Comment ça s'appelle ? C'est une
illusion d'optique.
Une illusion d'optique qui est assez connue, hein, en plus, celle du chapeau. Mais pour le coup, c'était marrant, je trouvais, tu sais, d'intégrer encore le caractère design, de le intégrer aussitôt dans l'univers. Je trouvais ça malin.
Et ce qui termine vraiment l'identité, pas que visuelle, mais esthétique au sens très large du terme, c'est vraiment cette musique aussi. On le disait, il y a un côté très, alors anglais, moi j'ai dit Europe de l'Ouest, hein, globalement, c'est quand même pour moi une inspiration, voilà. Et donc musique composée, alors j'ai noté le nom, parce qu'on le dit pas souvent, mais Tomohito Nishiwa, et avec de l'accordéon, du violon, alors violon un peu plus, mais accordéon c'est pas un instrument qu'on entend assez souvent, mais on est dans le cliché, Amélie Poulain, ça joue la vie
ouais,
en rose.
Ouais, ouais, c'est vrai.
Il y a ça, moi ça me faisait penser, tu sais, à Kiki, la petite sorcière, là, toujours des studios Ghibli, qui retrouve aussi un peu ce côté village européen en bord de mer, etc. Mais oui, vraiment, de toute façon, toute l'esthétique, donc c'est ça qu'on parle, hein, on parle à chaque fois du visuel, des décors, des personnages, la musique et tout, donne en fait un tout qui est finalement extrêmement cohérent et très original. Enfin, il y a un côté frais, tu vois, on aurait dit à l'époque.
Bah, tu t'attends pas à une telle générosité de la part d'un jeu de puzzle, en fait. Parce que comme dit, c'est vraiment des énigmes, on va revenir en détail là-dessus, hein, mais on est beaucoup moins sur un jeu d'aventure que vraiment sur un jeu de puzzle où t'enchaînes les énigmes. Et il y a tout ça qui, tu fais, ah ouais, en fait, la musique, elle est bien, l'esthétique, elle est bien, les persos, il y a un bon caractérisage. Il y a du doublage, seulement anglais pour le premier, en tout cas pour l'Europe, il y a japonais aussi, j'imagine, mais il n'y a pas de VF, à noter.
Et puis à noter, sur la musique aussi, c'est vraiment très important parce qu'il y en a une qu'on va être amené à beaucoup écouter, c'est celle qui est pendant les énigmes.
C'est vrai que c'est toujours la même.
Et c'est toujours la même, et je trouve que là, c'est vraiment arriver à trouver une musique qui n'est pas déplaisante. Alors moi, je me souviens, ça m'arrivait de la baisser un petit peu de temps en temps quand il fallait passer un niveau un petit peu supérieur de réflexion.
Hugo will be Hugo.
Non mais tu sais, c'est comme quand t'es dans la voiture. Attends, je cherche la route, donc tu baisses la son. Musique exactement. Mais par contre, je la trouve vraiment réussie, vraiment agréable, et on s'en lasse pas. Donc il a vraiment réussi à trouver un certain nombre de motifs, même le thème un peu du professeur Layton qui est exploité différemment tout au long du jeu. Mais ouais, une vraie réussite sur la musique. Elles sont cool. Les musiques sont très agréables à écouter. Même là, en préparant l'épisode, pendant que je faisais mes recherches, je l'avais mis un petit peu en fond. C'était agréable de retrouver ça. Et ouais, c'est un jeu qui, en plus, comme tu le dis, de tous ces énigmes, a cet emballage qui est original, qui est cohérent et qui marchait bien avec la DS et qui faisait que, ouais, tu vois, l'objectif de dire, on n'est pas un Dr. Kawashima-like, non, on est le professeur Layton. Tout de suite, il y a une identité qui est très marquée, qui est très facilement reconnaissable et qui va donner vie à la licence.
La petite cerise sur le gâteau, c'est les petites séquences animées là, qui vont popper à différents moments, qui vont vraiment apporter un petit truc très, très enfantin, encore une fois, mais surtout, c'est ultra bien animé. Toute la séquence de fin, là, avec le combat dans le ciel.
Avec le Dr. Robotnik.
Avec le Dr. Robotnik, là, tu vois, tu dis, ça marche super bien. Enfin, tu sais, tu te dis, ça pourrait être une séquence d'un dessin animé, tu vois, ça me fait penser à Lupin. Aussi à cette série là un petit peu de cette époque, ça marche ultra bien quoi.
Et puis enfin il y a aussi ce petit truc là, c'est quand on résout une énigme, le fameux petit triptyque de ting ting comme ça, qui où ça instaure un petit doute, tu sais pas, mais tu sais, la deuxième image, tu vois un peu le professeur Layton sourire, tu dis, c'est bon.
Juste pour préciser au cas où des gens l'ont pas fait, mais à chaque fois que tu proposes une réponse à l'énigme, il va y avoir 3 frames du professeur Layton ou de Luke. Les 2 premières sont toujours les mêmes, il cogite un peu. La 3e, il a un sourire ou un petit truc en biais, ou tu sens que ça passe pas. Et le dernier, c'est soit yes, j'ai trouvé, ou non,
soit,
t'as ce feedback visuel et sonore.
Ouais, j'ai vu la boule noire aussi, merci. Motus, à jamais dans nos cœurs.
Qui est devenu vraiment iconique et qui marche super bien comme récompense. Ce truc-là, c'est fou parce que on ne s'en lasse pas.
C'est
toujours le même.
Parce que t'attends la 3e.
Et parce que
voiture, genre. Mais c'est bon.
C'est comme la Pokéball.
J'allais exactement dire la même chose, Maxime. C'est la même chose.
Tu retiens ton souffle et t'attends juste. Est-ce que ça a bougé ou pas?
Et la Pokéball, c'était pareil. Il y avait un mouvement que, en fait, quand tu connaissais, dès le deuxième, troisième, tu disais, ok, c'est bon, tu vois. Et c'est exactement pareil. C'est ce petit plaisir derrière de la réussite qui est récompensé avec quelque chose qui finalement est un dispositif qui est super simple, mais pourtant qui marche super bien et qui, encore une fois, avec le chapeau de forme, avec l'esthétique, la musique, qui fait partie des trucs qui sont restés du professeur Layton.
Et ce qui est très malin avec ce genre de récompense, c'est que, en fait, comme c'est des énigmes qui font appel à des connaissances générales qui ne sont pas liées à du jeu vidéo, tu sais si t'as la bonne réponse. Il y a des moments où tu le sais. Et donc, en fait, la récompense, tu sais, c'est de kiffer et de se dire, je sais que tu vas afficher la 3e image et qu'à un moment donné, il va sourire. Donc, en fait, t'as cette espèce, de confirmation de ce que tu as fait. Donc, ça, des fois, c'est genre, je sais pas trop, c'est la bonne surprise. Et des fois, c'est juste, je veux confirmer que j'ai réussi et t'as le droit à ça. Et donc, ça, tu vois, en termes de game design, ça marche extrêmement bien. C'est très efficace.
Quoi? Mais c'est quoi alors? Je comprends pas.
Oui, il y a aussi ce truc. C'est pas 10, c'est quoi? Non, c'est 9. Ah, j'ai pas pensé, la bougie, elle reste en fait à la fin.
Et oui, l'aiguille des heures, elle avance aussi.
On va pouvoir passer.
Celle-là, elle m'avait saoulé.
sur le catalogue d'énigmes. Donc, on l'a dit, il y en a plus d'une centaine, il y en a 130, un truc comme ça, 135 en comptant les énigmes.
120
un peu
plus 15, c'est
voilà,
ça.
C'est ça. Sachant que pour finir le jeu, il en faut au moins, faut en réussir au moins 75 et qu'il y en a un certain nombre qui sont obligatoires dans des passages qu'on va appeler bah, voilà, des goulets d'étranglement qui sont obligatoires que tu dois résoudre. Mais voilà, on n'est pas tous obligés de les faire, mais voilà, c'est vraiment un catalogue d'énigmes. À chaque fois qu'on rencontre un personnage, bah, on va tapoter dessus avec notre stylet, il y a un petit point d'exclamation qui apparaît, et ça y est, c'est parti.
J'ai une petite boule rouge. C'est pas un point d'exclamation, c'est une petite boule rouge.
Ah, c'est pas un point d'exclamation ?
De quoi, pardon,
moi j'avais ça, tu sais, quand tu cliques sur le personnage qu'il a une énigme, il a une petite boule rouge qui apparaît.
Moi, je me semblait que c'était un point d'exclamation. Bon, mais bah, écoute, peut-être c'est dans le deuxième, un truc comme ça.
Je confonds, mais...
Ok. Bref, en tout cas, on clique sur les personnages et voilà, on va pouvoir résoudre ces énigmes. Alors, on l'a dit, globalement, le niveau, c'est début collège. Voilà, c'est 6e, 5e. Il faut quand même avoir quelques connaissances rudimentaires en géométrie. Parfois, il faut savoir ce que c'est qu'un rayon, un diamètre, connaître quelques propriétés sur les rectangles, les triangles rectangles, les angles droits. Il faut avoir quelques bases là-dessus. Et puis après, sinon, ça va être au plus complexe des équations à deux inconnues, mais c'est des équations qui sont, en fait, t'as pas besoin de savoir les poser mathématiquement pour pouvoir les résoudre.
Pour donner un exemple, donc une équation à deux inconnues, ça va être, dans le professeur Lutton, c'est, il y a un frère et une sœur qui discutent, et la sœur, elle dit, tiens, bah, si on enlevait 2 ans à ton âge et qu'on me les donnait, j'aurais 2 fois ton âge, et si tu m'en donnais 3, j'aurais 3 fois ton âge.
Ouais, voilà,
quel est l'âge de la sœur, ou machin, tu sais, le père, ah oui, il y a 10 ans, j'avais le double de ton âge, et dans 10 ans, j'en aurais le triple. Ce genre de truc, n'essayez pas ça, je viens de le dire.
Ce n'est pas une vraie.
Ne posez pas.
Prends ton stylet, prends ton stylet.
C'est 3,47 000. Il y a une méchante origin story là, qui vient de s'écrire à l'instant. Dans 10 ans, il y a quelqu'un qui va conquérir le monde. Max, il avait dit ça et c'était pas possible.
Même si tu ne sais pas poser une équation à deux inconnues, en fait, tu peux. Parce que les ordres de grandeur, ça va être en général, c'est entre 1 et 10 très souvent dans les réponses. Même quand tu lisais, si tu ne sais pas ce qu'est un rayon. Il y a un moment, il y a une mesure, tu sais qu'il y a un truc qui fait 5 cm, un autre 5 cm. Dans les réponses que tu vas tester, tu peux tester 5, 10, 15, 20 et ça passera au bout d'un moment.
Il y a pas mal aussi d'énigmes à base de. Enfin, il y a quelques énigmes à base de menteurs où il y a plusieurs personnes qui vont donner des informations.
Oui.
Voilà, moi j'étais à cet endroit-là et lui était à cet endroit-là. Ah, moi je l'ai vu à cet endroit-là. Et en fait, on va devoir recouper toutes ces infos pour essayer de cibler
qui ment, peut pas mentir,
pour que les équipes, voilà, pour que les 3 autres soient cohérentes. Ouais. Il faut qu'on en élimine une et en général, c'est comme ça qu'on doit procéder. Il y a aussi des petites énigmes visuelles, notamment qui exploitent la DS. Voilà, parfois, il faut essayer de reproduire des formes avec des dessins. Parfois, on va devoir séparer. Je me souviens de cette énigme avec des petits cochons qu'il faut
mettre dans des petits enclos avec un certain nombre de traits.
Il
y a l'histoire du petit chien là, avec ses petites allumettes. Il va falloir les déplacer pour qu'on ait l'air d'avoir l'impression qu'on l'a écrasé.
Il faut faire un chien écrasé. Ouais. Et du coup, faire une représentation aérienne en fait, où tu mets les pattes éclatées.
Il y a des trucs où tu as des allumettes et ça représente, tu sais, des cubes vus. Alors, c'est orthogonal, exact.
Attention,
oui.
ça
c'est pas isométrique, c'est orthogonal. Je crois que c'est ça le terme. Et du coup, tu sais, tu dois les représenter pour te dire, ah oui, alors là, il y a en fait 9 cubes, 12 cubes, etc. Ou comment, si je déplace une seule allumette, combien je vais créer de cubes? Combien il y a de triangles, combien il y a de triangles dessinés dans ces trucs? Enfin, voilà. Pas mal de petites choses comme ça aussi.
Celui que t'as beaucoup aussi, c'est les petits pièges. Je sais pas comment on appelle ça, mais c'est qu'il faut bien lire l'énoncé, globalement. J'ai un exemple, c'était, en fait, ils vont parasiter l'énoncé de plein d'infos, alors que la réponse est très simple. C'est par exemple, oui, sachant qu'une souris, enfin, 2 souris se reproduisent 10 par jour, bout de 100 jours, il y en a 8000. Alors, vous venez d'adopter une souris, combien est-ce qu'il y en aura dans 3 mois? En fait, t'as une souris, donc elle ne peut pas s'accoupler.
Oui,
donc, la réponse, c'est 1.
Voilà, c'est ça.
Ou, bah, tu apparemment, t'avais mentionné les bougies.
Oui.
Et t'as un truc où t'as 10 bougies allumées, il y en a 3 qui sont, 3 qui sont éteintes par le vent, 2 qui sont éteintes par ci. À la fin, combien est-ce qu'il vous reste de bougies? Et en fait, là, t'as tendance à vouloir juste soustraire les bougies qui sont éteintes. Et en fait, non, c'est combien vous reste de bougies, les bougies qui sont allumées, ça va épuiser toute la cire et à la fin, ce qui te reste, c'est les bougies qui étaient éteintes. C'est comme ça qu'il faut réfléchir.
Cette réaction là, tu sais que t'es à un moment de
c'est ça,
bah, c'est là parce que t'as rentré 7 et tu fais quoi, mais comment ça, mais 10 moins 3 ça fait bien, et
là, c'était une honte, ce jeu il est pété. Et là tu prends ta DS, tu la fermes d'un coup et puis tu la rouves fortement et puis c'est comme ça que tu casses ta Nintendo.
Vous avez vu les catastrophes qu'on avait en magasin parce que tu sais, on s'occupait de racheter. Tu sais, t'avais les DS où les gens revenaient, tu sais, il y avait la
juste une file qui tenait les deux.
Tu sais, genre, comment ça, vous me la rachetez pas, ma console? Le nombre de gens qui venaient avec des consoles dans un état dégueulasse, tu voyais même plus l'écran. écran tellement il était rayé. Ouais, je voyais même plus les couleurs.
Les Nintendo DS chez mon daron, ah, parce qu'il y en avait deux, elles étaient destroy, mais vraiment pété. Tu sais, il y avait que certains endroits qui fonctionnaient sur le tactile, bah oui, où tu vois, c'était plus, tu pouvais plus jouer à certains jeux. Enfin, oui, le massacre des Nintendo DS, je pense que voilà. C'est pour
on
ça qu'elles sont aussi bien vendues.
Hein.
C'est pour, parce que les gens devaient en acheter une deuxième.
Tout le monde en a eu 6.
Ouais, exactement. Mais donc voilà, pour revenir au professeur Layton, bah, plein de typologies d'énigmes qui font appel à des capacités cognitives différentes.
Assez variées, assez différentes. Parce que c'est ça, si tu essaies d'en faire vraiment des catégories, alors peut-être que des gens qui s'y connaissent beaucoup mieux pourront le faire.
Noms, en fait. Hein,
c'est ça, mais tu vois, moi en regardant, je me disais, ça fait quand même appel à des trucs assez différents. Ou sinon, tu as aussi les casse-têtes.
Oui.
Alors, le jeu le dit, c'est le jeu de taquin, ça s'appelle comme ça, où tu as une espèce de grille physique et il y a un trou. Et cette grille, donc elle est composée en, je sais pas, on va dire 16 carrés égaux, mais t'en as un qui n'est pas là, et donc tu peux glisser les carrés, et en général, il faut reproduire une image en glissant les carrés. Moi, je déteste ça.
Pareil.
Globalement, tout le monde est à ça.
Et là, dans celui-ci, en plus, c'est chiant parce que du coup, dans la tour, il faut en fait à chaque fois déplacer une petite boule rouge et l'amener dans un trou pour pouvoir ouvrir le passage vers le prochain étage de la tour. C'est chiant. Ouais, c'est un peu dommage. C'est dommage, mais bon, voilà. Y a pas... En termes de rythme, c'est un petit peu le moment, je trouvais, qui était un peu plus long. Parce que ce qui est sympa, c'est que sur cette diversité de tous les indices, en fait, c'est assez rare d'en enchaîner plusieurs. Il y a quelques passages où je me souviens, le maire ou je sais plus qui te propose plusieurs fois. Non, c'est dans le bar.
Oui,
il y a quelqu'un qui te propose plusieurs fois avec les
échecs. Des trucs de plus en plus.
Avec les pièces d'échecs. Oui, c'est ça. Avec le coup des pièces d'échecs, t'en as plusieurs d'affilée. Donc là, tu dis, ah bah tiens, on va complexifier le truc au fur et à mesure. Mais souvent, tu passes d'une énigme à une autre qui va faire appel à des trucs complètement différents, quoi.
Et surtout que chaque énigme est très courte. En fait, tu vas rarement y passer beaucoup de temps. Il y en a plein que tu peux résoudre. Allez, en quelques minutes, c'est vraiment 2-3 minutes. T'en as qui vont demander un peu plus de réflexion. Tu vas monter à 10, allez, 20 max. Mais en vrai, tu passes pas beaucoup de temps sur le jeu.
Il y en a quand même 2 ou 3 où j'ai dû écrire des trucs, tu vois, sur un bout de papier, parce que justement, alors en calcul mental, je suis bien pour tout ce qui est addition, soustraction, mais tout ce qui est équation, etc., en général, j'ai besoin de les poser, les produits en croix, tout simplement, tu vois, genre machin fois machin divisé par machin, ça, j'ai besoin de l'écrire pour savoir dans quel ordre il faut que je fasse les trucs. Et mais à part ça, ouais, j'ai pas eu trop de problèmes, je l'avais fini, je sais plus combien, je vous avais dit, je l'avais fini en quelques heures, ça s'était plutôt bien passé.
Mais c'est ça, vraiment, la réussite, c'est que globalement, il y a un niveau d'énigme, alors il y en a qui sont très faciles, d'ailleurs, le jeu t'indique en général le niveau de difficulté, parce qu'il y a une récompense et les Picara, on gagne un certain nombre de pièces après avoir trouvé la bonne réponse, et on en gagne moins si on s'est planté plusieurs fois. Et donc, si c'est une énigme à 20 Picara, c'est qu'elle est assez facile. Et
c'est 50 le max.
Non, il y a plus, il y a 70. Et dans les bonus, il y a genre 90, truc comme ça.
Un gros Picara.
Mais je pense que dans les obligatoires, c'est peut-être 70 le max, mais il y en a peu. Donc, en général, 50, c'est le haut du panier. Et donc, ça annonce un petit peu la couleur. Mais tu l'as dit, globalement, tu finis par trouver la réponse. Si t'es jeune, là, ça peut être un peu plus compliqué. Mais c'est ça, c'est que même quand t'es adulte, là, j'ai refait, tu vois, des énigmes. Bah, typiquement, les pièges ou les trucs, parce que c'est des trucs que t'as pas l'habitude de voir. Si c'était que des équations à deux inconnues, bah, tu finirais par apprendre la méthode, à l'appliquer. Mais là, comme c'est varié, il y a toujours un petit, ah, tiens, c'est nouveau, faut que je fasse le chemin le plus long, donc faut tester plusieurs trucs.
C'est pas un bête problème de maths abstrait, c'est pas A fois B,
c'est toujours bien.
Il y a toujours
une
explication. Voilà, ça va être des personnages, ça va être des gens, ça va être
des dessins.
T'as des trucs où il faut amener celle que j'aime bien là, c'est celle avec les litres là, le truc de Die Hard où il faut mettre
trois récipients
valeurs différentes et il faut réussir à trouver une valeur qui est pas dans aucun des récipients, donc il faut faire plein de mouvements et de gestes et de machin, c'est rigolo. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est sur la façon de proposer le rythme d'enchaînement des puzzles. Ça, je m'en étais rendu compte dès le début du jeu. Au début, il enchaîne, tu vois, de manière croissante, 5 picara, 10 picara, 15 picara. D'un coup, t'en as une 50 qui tombe direct, et tu te dis, elle est un peu dure, et après, tu n'en reverras pas pendant pas mal de temps. Tu sais, en fait, au début, ils te mettent un pic de difficulté relativement tôt, pour pas que t'aies l'impression que ça va être uniquement une espèce de pente ascendante et que tu finisses par te décourager. En fait, pendant très longtemps, tu te diras, j'ai déjà fait une énigme à 50 picara, donc je peux y arriver. C'est très très malin dans leur façon de gérer l'apprentissage et la peur face au challenge. C'est quelque chose qui marche ultra bien, je trouve, dans ce premier Layton.
Et si jamais c'est trop dur, t'as un système d'indices. Dans le décor, t'as des pièces SOS qui se cachent. Et tu peux demander 3 indices par énigme en dépensant des pièces. Je sais plus combien, non, mais globalement, t'en as quand même assez, parce qu'il y a beaucoup d'énigmes.
Il y en a vraiment beaucoup.
Mais bon, faut chercher un peu dans le décor quand même, faut passer du temps à taper. Et d'ailleurs,
c'est l'objet caché, tu vois.
Ouais.
C'est ça,
c'est qu'il y a vraiment, comme c'est que des tableaux, parce qu'on en a pas forcément parlé, mais c'est mis en jeu de façon un peu point and click. Vraiment, on est sur des tableaux comme ça, on se balade. Il y a des petites flèches sur les bords de de l'écran et on va arriver sur un autre tableau. Et dans ces tableaux, bah, déjà, il y a une montagne de détails. Hein. Il y a les petits personnages et tout, c'est très détaillé. Et il y a parfois, bah, je sais pas, il va y avoir une petite pancarte, un petit panneau, une petite poubelle, une petite bouche d'égout, hop, tu cliques dessus et tu récupères une petite pièce. Donc il y a aussi un petit côté jeu comme ça, essayer de retrouver les pièces, même si tu vas pas forcément t'en servir. Je trouve que c'est sympa, tu vois, de scanner un petit peu l'écran et de dire, ah tiens, peut-être il y en a une là.
Des fois, tu réfléchis, juste en fait, tu as juste envie de cliquer sur l'écran, tu vois, voir ce qui se passe. Tiens, genre, moi j'en aurais mis une là, dans l'arbre.
C'est exactement ça.
Mais c'est une boucle en soi, de cliquer sur l'enseigne du magasin, comme tu disais, de repérer des éléments du décor qui se distinguent et de taper.
C'était un genre de jeu, ça.
Bah ouais, c'est ça, ça s'appelle les objets cachés. C'est un genre de jeu vraiment à part entière qui cartonne, notamment grâce au téléphone et a fortiori sur tactile. Mais il y en a des tonnes et des tonnes d'objets cachés, ça fonctionne vraiment très très bien.
C'est vrai qu'il y a cette petite composante là qui marche bien et qui est divertissante en fait entre les
Et si jamais il y en a que t'as pas trouvé, t'as aussi en récompense parfois des pièces d'un chien robot, et le chien il finit par apparaître quand tu vas sur le décor. Le chien il t'indique qu'il y a une pièce
SOS. Tu
vois renifler un peu creusé. Et donc je reviens sur le système d'indices. Tu peux dépenser donc des pièces SOS pour 3 niveaux d'indices, et bah c'est des indices de plus en plus
obvious, enfin évident,
voilà, qui t'aident. Mais il te donne pas le troisième, il va pas te dire c'est ça la réponse. Il peut beaucoup te mettre sur la piste, mais bon, si t'es complètement à côté de la plaque, que t'as pas la logique, que t'as pas du tout le truc, tu peux éventuellement ne toujours pas capté avec les trois indices, mais globalement t'es quand même très aidé.
Et là du coup on peut saluer l'effort de localisation, parce que vraiment il y a, comme ils ont réussi à retranscrire certains jeux dans les, tu vois, sur le fait de piéger les gens avec les énoncés, etc., même dans les indices, ils arrivent à ne pas nous induire en erreur, tu vois. Y a pas, j'ai pas eu de moment où je me suis dit, ah, la version française elle m'embête un petit peu, et alors que ça aurait pu être très possible, parce que le langage dans ces cas là si tu utilises un mot à la place d'un autre, tu vois, quand c'est des valeurs, des trucs genre c'est supérieur au lieu d'inférieur, enfin j'en sais rien, c'est des erreurs très grosses, ça, mais ça peut arriver. Il y a pas de souci, tu y a pas de souci de compréhension, et ça c'est très très fort aussi à noter.
Il y a un truc que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'à chaque fois que tu as résolu une énigme, il t'explique un peu, il y a une petite phrase qui dit bravo. Effectivement, quand on tourne le carré comme ça, ça permet de calculer le rayon du cercle, enfin si jamais tu as brute force, comme je le disais, en général les réponses, tu peux tenter des trucs, pas toujours, hein, mais j'ai dit, t'as des 5 et 10 qui flottent un peu dans les airs comme ça, tu dis, ah, vas-y, ça doit être 20, machin, et ça passe. Quand même, en général, il t'explique pas toujours, il va pas toujours te dire, la réponse c'était bam, 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 il fallait faire ceci, cela, il fallait prouver que A au carré plus B au carré égale C au carré. Mais en général, il va y avoir un côté où t'as brute force et tu fais, ah oui, c'était ça la réponse. Ok, maintenant, j'ai compris après avoir résolu.
Oui, et puis je trouve que c'était, tu vois, c'est une manière à eux, tu sais, de remettre avec leurs mots, justement, la solution. Et je trouve que c'est plaisant, en fait, de relire la solution bien expliquée, parce que parfois, peut-être dans ta tête, toi, t'as trouvé la réponse, mais tu sais, t'as pas skippé des étapes, mais tu vois, t'as été peut-être un peu intuitif, et eux ils te le remettent bien, et je trouve que c'est aussi une récompense en fait d'avoir ce petit texte que tu t'expliques le machin. Parfois il y a des petites touches d'humour parce que c'est, en plus c'est relativement bien écrit, tu vois, c'est agréable à lire, donc c'est vrai que ça marche super bien. Et finalement, bah, c'est ce qu'on s'est dit, c'est que ce jeu, en fait, ils ont vraiment réussi à faire ce pont entre une esthétique qui fonctionne bien et ce catalogue de puzzles, et faire quelque chose qui est très cohérent, qui est bien en fait, qui est bien imbriqué l'un dans l'autre, tu vois, parce qu'il y a ce côté un petit peu point and click où tu te balades, il y a ce petit côté mystère, l'histoire où t'as envie de savoir un petit peu le pourquoi du comment, le petit côté tu cherches les petites pièces d'indices qui sont une économie pour pouvoir gérer toi tes puzzles si t'as un peu plus de difficultés. Bref, tout ça est vachement bien mené, vachement bien porté, c'est très cohérent en fait, et ça donne un jeu qui, en fait, c'est pas du tout surprenant que c'est marqué les gens, parce que c'est juste, bah, tout est bien fait, quoi, y a pas grand chose à redire,
quoi. Et ça a pas vieilli d'un point, c'est ça, on le lance aujourd'hui, et je sais pas si on l'a dit encore, mais on l'avait dit tout à l'heure, en tout cas en parlant de la DS, il y avait ce côté très universel de l'utilisation d'un stylet, qui est un stylo en gros, hein, voilà. Mais les énigmes, comme elles font appel à des connaissances générales et qu'il n'y a jamais besoin de savoir jouer aux jeux vidéo pour jouer à Professeur Layton. Et ça, c'est un truc qu'on ne peut pas sous-estimer dans le succès du jeu, parce que c'est quelque chose qui permet de montrer aux gens, genre, ben, joue au Professeur Layton. Le nombre de fois, enfin, je veux dire, j'ai mis ma mère sur le Professeur Layton quand je lui avais offert sa DS, et elle était ravie, elle les a tous défoncés. Et depuis, bon, elle est sur Candy Crush, elle est tombée dans le dark side, elle est tombée dans le côté obscur, maman, si tu m'écoutes, je suis désolé. Mais blague à part, elle avait adoré cette série-là, alors que bah, les jeux vidéo, tu vois, ça lui passait un peu à 3000, quoi.
Et il y a un truc, autant ça n'a pas vieilli, mais il y a un truc, je pense, à l'époque, qui faisait beaucoup plus la différence, on l'a déjà évoqué, mais comme tu le disais, le tactile, mais le simple plaisir de manipulation, d'utiliser ton petit stylet pour répondre, parce que 100% des puzzles, tu auras besoin du tactile, soit dans la résolution, donc on l'a dit, tracer des piquets, tracer voilà, des chemins le plus long, ou déplacer
la réponse,
entourer la réponse, ou déplacer des casse-têtes, mais sinon, parfois, quand c'est de la géométrie, il va te demander la réponse, et il faut entrée, tu vois, le chiffre 2, le chiffre 0 pour faire 20. En fait, toujours, tu es dans cette manipulation du stylet, du tactile et... Bah à l'époque c'est pas rien, c'est nouveau en fait.
Ouais, vraiment, ouais, c'est, un côté c'est novateur, vrai que
c'est difficile
hein.
Je trouve de se replacer parce que évident aujourd'hui tu dis enfin ça fait quoi, ça fait 15 ans ouais. Mais aujourd'hui on est tellement tactile de partout, enfin là moi j'ai une tablette où j'ai mon conducteur, on a tous nos portables autour parce qu'on a aussi le conducteur dessus, enfin on sait utiliser ces trucs, c'est des extensions de nous-mêmes quoi d'utiliser des interfaces comme ça avec du tactile, mais en 2007 c'était pas normal.
Et une petite fonction du professeur Layton qui a l'air de rien mais que je trouve ultra intéressante, c'est que en fait tu avais un petit menu, tu sais, brouillon. C'est-à-dire qu'en fait, si ils se sont dit, t'es dehors, j'en sais rien, enfin, t'as pas envie d'écrire un truc sur un bout de papier, tu veux poser ton équation, tu pouvais gribouiller sur l'écran, faire des petits traits, des petits dessins, etc., tout effacer, juste pour prendre des notes, tu vois, pour poser un petit peu la réflexion et utiliser du coup l'écran tactile encore d'une manière un peu innovante, entre guillemets.
Et finalement, quand on regarde le jeu, on se dit qu'il est né à cause, enfin, un peu grâce au positionnement de la DS, de ce qu'elle pouvait faire, mais en fait, c'est devenu un des ambassadeurs les plus emblématiques de cette console quoi. Il représente tout ce que cette console elle a essayé de faire et de proposer
parce qu'il a justement eu ce côté très malin de ne pas être juste le professeur et
Kawashima
pas Nintendo, c'est pas un espèce de truc prétexte, il y a un univers, il y a un côté fiction, en fait c'est un véritable univers de fiction dans lequel c'est justifié de faire des exercices qui n'ont aucun rapport avec du jeu vidéo.
Et je pense qu'avec le recul tu vois professeur Layton est beaucoup plus aimé qu'un professeur Kawashima parce que professeur Kawashima c'était un peu un truc comme ça osé,
puis c'était cette espèce de tête moche en plus, enfin tu vois, il y avait aucune identité.
C'était très austère en fait, mais tout prend sens dans la rencontre. On l'a dit, c'est un professeur tu vois, qui fait des puzzles, des énigmes et quelqu'un qui fait des RPG. Globalement, c'est ça. Et ça donne un très bon mélange. Plus que, comme vous l'avez dit, Kawashima qui est hyper austère où tu rends la monnaie. C'est un peu rigolo au début, mais c'est pas ça qui reste.
Surtout que le jeu, tu sais, il est pensé comme la Wii Fit, c'est-à-dire que c'est très. Ouais, voilà, il y a un truc un peu.
Presse médicale là-bas.
Ouais, et tu sais, genre, alors ça fait une semaine que t'as pas joué. Il en est où ton cerveau? T'as quel âge cette semaine par rapport à la semaine dernière hein, est-ce que t'as changé
ton cerveau?
Mais ça fait très jeu un peu parce qu'on disait bon casual gaming au marché, mais il y avait aussi cette image, tu l'as dit, tu vois, c'était légitimé dans les gens, le JT ou globalement tu vois dans la société on va dire, mais c'est légitimé pour les mauvaises raisons parfois, c'est juste parce que ça va entraîner un peu ton cerveau. Mais tu vois, ça donne des jeux qui sont effectivement pas forcément intéressants. Si c'est pour faire du sudoku en tactile, effectivement, la manipulation, elle est nouvelle, c'est rigolo. Il y avait, en vrai, Kawashima, il y avait un truc qui était rigolo, c'était, je crois, fallait dire, t'avais le mot rouge écrit en vert, fallait dire vert, je crois. C'est toujours un peu rigolo comme terrain d'expérience, mais encore une fois, c'est pas le jeu vidéo.
Je pense que dans les livres d'histoire, un jour, on verra que la première personne désagréable sur Internet qui a dit que ça n'était pas un vrai jeu vidéo, en parlant de Kawashima ou comme ça, c'est assez cette époque. Je pense pas que quelqu'un parlait de faux jeux vidéo avant, tu vois. Parce qu'il y a eu justement cette espèce de vraiment séparation. Il y a eu un schisme qui s'est créé, une espèce de fracture là entre ces jeux plus grand public qui n'essayait pas d'être du jeu vidéo, qui essayait d'être autre chose, et Layton fait un pont absolument magique entre les deux quoi.
Tout à fait, et ça va lancer une licence qui va vraiment bien fonctionner, qui va être une des licences phares de la DS. Donc il y a trois épisodes qui sont sortis sur, non il y en a quatre qui sont sortis sur Nintendo DS et deux autres qui sont sortis sur 3DS, mais il y a eu deux trilogies en fait, c'est-à-dire que la deuxième trilogie commence sur Nintendo DS.
Il y en a eu encore un après,
et il y en a eu encore un effectivement qui est sorti, alors que soit c'est sur
quelques
mobile
années après.
Soit c'est voilà, mais c'est un spin-off avec
mobile gratuite chelou là, Layton and Friends ou je sais pas quoi qui est sur téléphone,
c'est un
qui
gacha
une espèce de gacha.
Je sais pas.
Il y a eu le professeur Layton quelques années après où on joue la fille
professeur
Layton,
c'est spin-off,
donc il a eu une vie sexuelle à un moment donné le professeur Layton, voilà, je veux dire que ça vous débrouillez, c'est un gentleman,
ça
mais
ça fait penser à une énigme.
Ah oui, mais justement qu'est-ce que je voulais dire, et il y a eu aussi des films d'animation vraiment il y a eu une espèce de d'engouement autour du personnage du professeur Layton, donc Level 5 a un petit peu surfé sur ce truc là et c'était bien dans la mouvance, c'est-à-dire que c'est des Japonais,
aimait,
tu vois.
C'est un studio qui aimait faire ce genre de choses, qui aimait faire du merge des trucs, puis après on va en parler, il y a Yo-Kai Watch, donc voilà,
ils étaient dans
ce délire-là, mais voilà, dans ces studios-là, il y a cette culture de faire des ponts avec l'animé, avec les jouets, etc., donc c'est pas étonnant en fait qu'ils aient lancé des animés Professeur Layton, sachant que dans le premier jeu, il y avait déjà des cinématiques qui, là on les a re-regardées juste avant de faire l'épisode,
elles sont
vraiment stylées, quoi, ça rend bien. Donc voilà, la série qui va bien fonctionner. fonctionné jusqu'en 2012-2013, où voilà, ça va être vers le cinquième épisode, et notamment parce que bah, chez Level 5, ils vont plutôt passer sur Yo-Kai Watch qui va arriver, et on imagine que ça va être un petit peu, bah voilà, le nouveau, le cœur de l'activité va se concentrer sur cette nouvelle licence.
Bah là, c'est surtout que d'un coup, ils se retrouvent à avoir potentiellement une poule aux odeurs, hein, littéralement. Ouais. Yo-Kai Watch, pendant quelques semaines, mois, on ne sait pas, était pressenti pour tuer Pokémon, entre voilà. guillemets, tu vois, évidemment, bon, voilà, l'histoire PTDR. A été écrite, mais il y avait quelque chose où ça a été vraiment un vrai phénomène. Et moi j'étais retombé dessus, il y avait ce fameux Nintendo Direct où quand Yo-Kai Watch est enfin sorti en France, il y avait le patron de Nintendo France là dont j'ai oublié le nom, tu sais qui fait la danse là, et Yo-Kai, Yo-Kai, et il fait son truc et t'es là genre, mais qu'est-ce que c'est, tu vois un japonais comme ça avec son costard, il tire la tronche en plus,
il danse avec des faux Pokémon derrière lui, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire,
une espèce de Yo-Kai en forme de chat là, on dirait, voilà, bizarre, mais tu dis, c'est quoi ce truc, et ben en fait c'était les japonais, tu sais, ils étaient arrivés avec leur rouleau compresseur en mode, bon bah il y a Yo-Kai Watch, ça va tout défoncer, ça n'a pas été le cas. Mais c'était un peu le... En tout cas, c'était l'ambition du truc.
Bah parce que Yo-Kai Watch, c'est pas non plus tant vendu que ça. C'est des ventes tout à fait respectables. Hein, ça, y a pas de souci. Mais c'était surtout, je pense, sur les produits dérivés. Tu vois, il y avait l'animé, sans doute le manga, plein de peluches, de jouets, de trucs comme ça. Et c'est là que tu sentais... parce que Yo-Kai Watch, moi, j'en ai entendu parler alors que j'étais plus du tout dans Pokémon ou quoi. Mais parce que je le voyais plus... à travers ces produits là,
t'avais ces espèces de petites vagues, par moment il y a eu la Beyblade à un moment, tu vois, il y a eu ça, il y a eu ces
hyper
petites
vitesse,
ouais,
bah
ça
on avait connu un peu,
non mais ça avait un peu ça, délire,
mais ça a
quoi.
Surtout fonctionné au Japon, c'est à dire que en Occident ça a moins pris, ça a pas pris comme Pokémon, et bah sinon de toute façon ça aurait été un autre phénomène. Mais sinon, pour revenir sur Lighton, il y a aussi que bon, en fait cette formule elle est super, et on imagine que, tu vois, on imagine quand tu finis l'un tu dis oui on peut en faire 2-3 comme ça, mais c'est vrai que tu te dis pas bon, ça peut pas durer non plus des années, et puis à travailler dessus, même si c'est sympa à produire, j'imagine que le studio était peut-être content justement de revenir à autre chose aussi, tu vois.
Surtout qu'à un moment donné, ta seule solution c'est de rendre les énigmes beaucoup plus complexes. Donc c'est soit tu tournes en rond et du coup les gens sont là genre bah trop facile votre truc,
ou
je l'ai déjà fait.
Ou d'autres mais qui se ressemblent. Enfin c'est qu'à un moment tu peux pas non plus, t'as un parc de d'énigmes potentielles et après c'est des variations les unes des autres.
Au bout du
donc
truc,
tu tournes un petit peu.
Les taquins au bout d'un moment. Autant tout ce qui est piège et tout, je pense ça marche toujours. Tu vois un peu la logique machin. Habite à tel étage en dessous de machin qui a une chambre verte, tu sais, tu commences à mettre tous les trucs, et c'est pas pour rien que, tu vois, on parlait de la série de bouquins qui existe depuis les années 60, des puzzles, on a plus de 2000 je crois, il disait il y avait un pool de plus de 2000 puzzles dans lequel ils pouvaient piocher, mais ouais, tout ce qui est un peu manipulation, un peu simple, où on peut pas faire traverser des poussins et des loups toute notre vie non plus sur le lac.
400 choux, 12 000 moutons, 3 000 loups, tu sais, genre vous pouvez le résoudre en 2500 mouvements.
Autant tu peux, je pense, picorer ça de temps en temps, mais on l'a dit, il y en a eu 5, 6, 7 et le jeu vidéo quand même, t'aimes bien la nouveauté, donc bon, ça s'épuise un peu forcément, et puis bon, ce qu'on a appelé donc le casual gaming, je mets toujours des guillemets parce que c'était un peu à l'époque,
c'est pas de péjoratif,
bon, ça, à l'époque ça l'est,
t'as le mec qui joue à WoW, tu vois, il passe son vendredi jusqu'au dimanche soir, il est sur son raid, il a pas bougé, il est pas allé faire pipi, et il y a les gens qui jouent à Layton, voilà, c'est tout, il y a deux type de personne.
C'est ça, exactement.
Cette pratique, on l'a dit, voilà, Nintendo, phénomène culturel et tout, bah, ça a plutôt shifté aussi sur d'autres, ça a perdu un peu aussi de mode, on l'a dit, la Wii U, bon, c'est plus trop ça. Hein.
Ouais.
Justement, il y a eu ce côté un peu, finalement, ce public rachète pas ou n'est pas forcément fidélisé.
C'est surtout qu'encore une fois, les téléphones qui sont arrivés, en fait, et
les réseaux sociaux,
le jeu casual et des expériences qui étaient plus digestes, comme ça, plus simples, avec des boucles beaucoup plus courtes sur des puzzles comme ça, en fait, c'est plus sur les consoles traditionnelles qu'on les a eues. En fait, Nintendo a eu ce petit truc, cette petite bulle pendant un moment, mais c'est sur portable et sur navigateur que ça s'est surtout passé. Et là,
d'un coup, tout le monde avait son téléphone dans la poche. La technologie avait largement évolué, parce que bon, à partir du moment où on avait des tactiles multipoints,
on parle de 130 millions de Nintendo DS, mais des portables,
c'est ridicule.
C'est rien du tout comparé au nombre de gens qui sont équipés d'un smartphone, puisque c'est fucking tout le monde. C'est impossible.
Quoi, Benoît, il parlait Candy Crush, hein, évidemment. Il y avait Words with Friends, qui est le Scrabble réseau social.
Tous ces trucs-là qui ont vraiment été.
Et
un
en plus,
phénomène,
du coup, il y a le délire de, tu sais, du modèle économique
qui permettait aussi.
L'App Store, en tant que boutique virtuelle, a permis d'apporter le délire du freemium et du free-to-play. Et voilà.
Qui match évidemment, forcément, d'autant plus avec du jeu casual où tu vises un très très large public. Peu de barrières à l'entrée, tu fais rentrer. rencontrer un maximum de monde.
Petit instant data, a priori, dernière info, ça date de 2021, il y aurait 6,5 milliards de smartphones en circulation dans le monde.
Oui, voilà, mais bon, après, mais c'est juste que voilà, une console, en fait, ne peut pas tenir la compétition face à ça.
Oui.
Et c'est pour ça que, voilà, aujourd'hui, le casual gaming se trouve... Mais en fait, même si c'est possible d'avoir des jeux casual sur son PC, sur sa Switch, en fait, bon, le marché mobile a forcément redistribué les cartes. Et c'est pas pour rien que Nintendo est revenu, finalement, un modèle et qu'aujourd'hui, ce qui fait la force de Nintendo, c'est à la fois la proposition de la Switch, c'est une portable qui est très agréable, etc. Et il y a le catalogue Nintendo, c'est les jeux Nintendo qui font la force de Nintendo. C'est plus forcément ce positionnement-là.
Et même notre temps de jeu, en fait, n'est plus passé de la même manière, parce qu'avec la multiplication des jeux et des sources de divertissement, avec les Netflix, etc., on consacre plus notre temps de la même manière. Donc, tous ces jeux-là, en fait, n'auraient plus forcément leur place aujourd'hui. Ça serait quand même beaucoup plus compliqué, quoi.
Mais justement,
FDG a annoncé les tonnes, et donc forcément,
Nintendo doit réagir. Ils ont été obligés.
C'est une faute, voilà, c'est ça. Ils ont lancé, ils ont dit, putain, FDG, ils ont parlé de Layton, ça veut dire qu'on doit refaire un jeu. Et voilà.
Et du coup, ils ont annoncé un nouveau Layton.
Qui devrait arriver sur Switch. Et c'est là la question, voilà, comment ça va fonctionner. Moi, il y a plusieurs questions que je me pose. La première, c'est est-ce que la licence Layton, je pense qu'elle parle beaucoup à des nostalgiques, des gens qui avaient peut-être justement 12, 13, 14, enfin, qui étaient dans cet âge-là à l'époque de la Nintendo DS. Maintenant, est-ce que les enfants qui ont maintenant les Switch, est-ce qu'ils vont y jouer? Peut-être, peut-être pas, ça je sais pas.
A priori, moi je voudrais tendance parler, à me dire, cette formule-là, de toute façon, elle est
intemporelle.
Un peu intemporelle, ouais, donc ça pourrait marcher. Ouais. Va falloir voir évidemment l'enrobage qu'ils veulent y mettre autour, tu vois, parce que là on l'a vu, ça va être un Layton un peu, alors pas forcément 3D, mais avec ce côté très animation, très moderne qu'on a l'habitude de voir, donc ça va être une production value quand même beaucoup plus grande que ce qu'on avait à l'époque. Faut voir ce que ça va donner.
Et puis c'est que maintenant ce qu'on sait, c'est que tout ce qui sort sur Switch, en général, fait la meilleure vente de sa licence. Hein. Ça a été vrai pour Metroid, pour Zelda, pour Mario Kart, c'est vrai pour toutes les licences Nintendo, donc c'est pas impossible que quand ce Layton il arrive, il soit d'ores et déjà en quelques mois le Layton le plus vendu. C'est tout à fait possible qu'il se passe ça.
Maintenant il y a des parents, tu vois, dans ceux qui jouaient à Layton qui étaient déjà ados, et donc ça, tu sais que tu peux le filer à un enfant, les yeux fermés, voilà.
Ouais, mais c'est vrai, t'as tout à fait raison.
Et même s'il est potentiellement un tout petit peu jeune, tu peux aussi l'accompagner et l'aider sur certains trucs,
un moment à partager, tout simplement, voilà, on est ensemble, et finalement le professeur et Luc, ce sera voilà le papa et son fils, la maman et sa fille, voilà, ça va être des moments
Ellie
à partager.
Et Joël. Aucun rapport.
Non. Mais voilà, c'est vrai que on est assez curieux de voir ça, et tu vois, en se replongeant dans les quelques énigmes, on était en train de préparer l'émission et on parlait d'énigmes, et tu sais, on parlait de comment on les a résolu, voilà. Ça c'est mon piège.
Ah non, mais de toute façon, le troisième groupe, oublie. Résoudre, coudre, c'est des verbes,
c'est
l'enfer.
Mais juste pour revenir à ça, en fait, on se reprend vite au jeu. Et tu vois, tu me dis aujourd'hui, refaire un professeur Layton. Je te dis, pourquoi pas, en fait, ça peut.
Si l'histoire est marrante, c'est ça exactement.
Si c'est plaisant, moi je me souviens que j'avais fait au moins les trois premiers sur Nintendo DS, mais pas à la suite, tu vois. C'est juste, je les ai fait. Je me souviens, une fois j'étais en voyage, j'avais pris un professeur Layton, et hop, tu vois, ça t'occupe, c'est assez cool à suivre. Et je me dis que c'est pas impossible que je refasse ça sur Switch, mais comme on le dit, je pense qu'il y a une formule qui est intemporelle, et d'avoir pris une pause et de revenir maintenant, c'est peut-être une bonne stratégie.
C'est peut-être le bon move, clairement.
Exactement. Très bien, écoutez, je crois qu'on a fait le tour sur ce professeur Layton. Merci de nous avoir suivis. On remercie une nouvelle fois Top Achat, notre sponsor. On rappelle que vous pouvez trouver de quoi vous équiper pour faire du PC gaming. Y a tout ce qu'il faut sur le site de Top Achat. Si vous voulez configurer votre propre PC, être accompagné dans cette grande aventure du montage de PC, Top Achat est là. Vous pouvez aussi nous soutenir sur Patreon. Ça, c'est la colonne vertébrale de Fin du Game, c'est vous qui nous permettez de faire cette émission, donc merci énormément. On se retrouve dans 2 semaines. Dans 2 semaines, c'est quoi le prochain jeu?
C'est
Tunique, donc on va encore parler Méninges et compagnie. Là, ça va faire un autre level quand même.
Il y a un moment un peu énervé quand même, à certains passages.
Très bien, merci de nous avoir suivis. À dans 2 semaines.
Salut. Ciao.